Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée, compile des reportages du mois de juin.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Et enfin, le paysage de Villejean se transforme avec une nouvelle unité de valorisation énergétique. Si les travaux ont commencé en 2022, ils ont pris du retard en raison d'un litige avec Rousse, la première entreprise avec qui la ville avait signé le contrat. Par an, ce sont 90 000 tonnes de déchets ménagers et des déchetteries et 50 000 tonnes de déchets des territoires voisins à Rennes Métropole qui seront traités. Avec un objectif pour lancer la production d'ici la fin de l'année 2026, la construction est quasiment terminée et les premiers tests vont être réalisés pour Syllab. Je suis allée visiter l'usine qui permet de faire de vos déchets de l'électricité et d'alimenter le réseau de chaleur de la ville. Avant de partir, il faut revêtir casque, gilet orange, chaussures et lunettes de sécurité. Avec près de 2000 km de câbles et plus de 50 mètres de hauteur, il ne s'agit pas d'avoir le vertige dans cette unité de valorisation énergétique.
Vous avez sur votre droite le four chaudière de la ligne 1 et sur votre gauche le four chaudière de la ligne 2. Donc là, on est au cœur de la combustion.
Ici, 144 000 tonnes de déchets vont arriver 7 jours sur 7 pour devenir de l'électricité et alimenter le réseau de chaleur nord de la ville, explique Fabrice Bizol, directeur de l'usine.
La priorité, c'est toujours le réseau de chauffage urbain. L'hiver, priorité au réseau de chauffage urbain. Avec l'énergie qui reste, on fait l'électricité. L'été, beaucoup moins d'appels de puissance, beaucoup moins de chauffage. On va produire plus d'électricité. On compense en restant toujours au nominal. L'usine permet de couvrir les besoins du réseau de chaleur urbain à hauteur environ de 60%.
Et concernant les micropolluants que l'usine relâche lorsque les déchets sont brûlés à plus de 1000 degrés. Là encore, le groupe se veut rassurant.
Quand on injecte une tonne de déchets dans le four, on va produire 30 kg de réfium. Le réfium, c'est du coup notre déchet ultime.
L'objectif, le traiter au maximum avec du bicarbonate de sodium et le reste sera transporté pour être enfoui ailleurs en France. Pour limiter les coûts et éviter de déconstruire entièrement l'usine, la collectivité a fait le choix de rénover l'ancien site. Sa capacité de production a désormais doublé selon Karine Fleury, directrice générale en charge de l'ingénierie et des services urbains à Rennes Métropole.
On est dans le périmètre de la compétence des déchets, donc le réemploi, le recyclage, c'est vraiment important. On pousse la réflexion jusqu'au bout. Également, dans nos travaux, on essaye de réemployer au maximum les matériaux présents sur site.
Une fierté pour Swazik Rouillard, délégué aux déchets et à l'énergie de Rennes Métropole.
Au vu des fluctuations du prix des énergies aujourd'hui, il vaut mieux avoir un réseau de chaleur qui est alimenté en majorité par des énergies renouvelables qui sont produites localement que par du gaz qu'on importe d'autres pays. Donc ça va changer qu'on va pouvoir proposer un tarif encore plus stable et plus avantageux au vu de l'augmentation des prix qu'on constate par ailleurs. Je pense vraiment qu'on a fait le bon choix quand je vois cette usine, quand je vois les personnes qui sont installées aujourd'hui. Et je n'ai qu'une hâte, je pense comme tout le monde, c'est qu'elle puisse être mise en service et qu'on puisse incinérer les premiers déchets.
Une fois transformées en électricité, les 18 tonnes de déchets traités par heure permettront de chauffer l'équivalent de 22 000 logements. Et les étapes de vérification des différentes étapes du processus ont commencé, mais les déchets ne sont pas encore traités. Rennes Métropole ainsi que les 33 salariés de l'usine espèrent un début d'exploitation progressif pour la fin de l'année.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
Le festival du début de l'été à Rennes est bientôt là pour une nouvelle édition. Les tombées de la nuit, c'est 60% de programmation gratuite partout dans la ville, dans les quartiers comme dans le centre-ville, mais aussi dans toute la métropole rennaise, comme l'explique Morgane Le Gallic, directrice et programmatrice de l'événement au micro d'Héloïse.
Pour nous, les tombées, c'est important d'être tant dans le centre-ville que dans chaque quartier de Rennes. Se concentrer sur un quartier, c'est aussi multiplier la chance que les gens puissent enchaîner leur parcours d'ici au centre-ville et de s'adresser aussi plus particulièrement chaque année aux habitants d'un seul quartier qui redécouvre les tombées, qui est quand même très connu, mais voilà, de continuer à créer des liens avec les nouveaux habitants. On sera effectivement surtout Maurepa, côté Groschen et côté Gailleul, avec l'idée d'être à la fois dans des environnements très urbains, comme celui où on est là juste maintenant, la place Lucie Aubrac, qui est assez récente au final. On y proposera deux spectacles, New Rose, un concert de cirque, un récit de l'enfance de Baos Temo, qui est un très bel interprète, et aussi un projet participatif portrait de famille des habitants et des amateurs qui ont répété un spectacle sur qu'est-ce qui donne un air de famille qui est tout à fait savoureux. Et on aura aussi une programmation entièrement professionnelle, le spectacle de théâtre Friterie mon ami à l'Agora du Pomme, donc là c'est plutôt côté Groschen. Deux propositions Nous camperons ici de Sébastien Barrier, qui est un tour de chant bavard et rock près d'une camionnette qui jouera au Jardin du Bonheur, Place Saint-Laurent. Voilà, on aura aussi une créatrice rennaise, Laure Fontvieille, qui jouera sa création Les Parts Manquantes autour des femmes célèbres et inconnues aussi, en promenade dans le quartier des Gailleuls.
Investissement aussi du cloître du Tabor.
Oui, le cloître a été en travaux pendant 3 ans. Il est magnifique et refait. Ça va être un lieu à la fois de programmation de théâtre, de programmation musicale, scénographié par l'équipe des Grands Géants. Et on fera aussi un bal le samedi soir, le bal des Ardentes. C'est la 3e année où on fait la tournée métropolitaine. Et nos collègues du Reux, de Passé, de Chartres, de Bretagne et de Laillé nous accueillent justement autour de cette proposition New Rose de Baos Temo, ce concert de cirque qui jouera dans toute la métropole la semaine en amont du festival. Donc à partir du 24 juin et la semaine même du festival, la semaine du 30 juin.
La tournée métropolitaine des Tombées de la Nuit commence la semaine du 24 juin. Le festival à Rennes, ce sera du 30 juin au 5 juillet.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Comment pousser adolescentes et adolescents à repenser les façons de vivre les relations filles-garçons ? À l'Université Rennes 2, le cher Recherche Action Denis Mukwege a imaginé le concours Penser Demain. Mercredi 3 juin, les élèves de primaire à la terminale ayant participé au projet ont été récompensés lors d'une remise de prix. Par groupe, les jeunes ont réalisé des affiches sur le thème « Et si le masculin ne l'emportait plus ?». Christine Rivalanguego, membre de la chaire Denis Mukwege, et Olivia Amos, coordinatrice du projet, sont revenues sur cette première édition au micro de Solène.
Alors ce projet, c'est un projet citoyen qui émane donc de la chaire. Donc la chaire, dans un volet plus tourné vers l'éducation des jeunes publics, a décidé de traiter cette question plus particulière pour la première édition du masculin et si le masculin ne l'emportait plus. Donc le projet consistait à demander la réalisation de visuels et ces visuels ensuite ont fait l'objet d'un concours.
L'idée était de laisser les jeunes s'emparer de la question de l'égalité filles-garçons et ce dans les établissements soit scolaires, donc primaire, collège, lycée ou les cercles périscolaires ou encore dans les maisons de quartier, les maisons de jeunes ou de la culture, accompagnés par ces personnes qui du coup travaillent avec eux au quotidien et pour que du coup ils traitent de cette question et répondent à la problématique et si le masculin ne l'emportait plus par une réflexion collective. Et le fruit de cette réflexion collective était ce visuel qui a été soumis à jury, accompagné de capsules sonores. Les retours sont très positifs. Ce qu'il y a de très agréable dans ce projet, c'est que en fait, les établissements se sont mis à échanger entre eux sur leur traitement de l'affiche et se sont même parfois réunis, ont créé des rendez-vous pour se présenter leurs affiches respectives, les défendre. Donc c'est vraiment un travail collectif qui a été mené et je pense même qu'il a dépassé ce qu'on s'était imaginé pour une première édition, clairement. Oui.
Et une nouvelle édition est déjà en préparation.
6 heures avant minuit.
Le meurtre de Liana, 11 ans, dans le Gers, a mis en lumière un dysfonctionnement de la justice. Après un appel des collectifs féministes et de la protection de l'enfance à 19h, René et René se sont retrouvés devant la cité judiciaire. Avec Léonore, nous nous sommes rendus sur place.
pancartes multicolores, slogans de protection de l'enfance, ils et elles sont 800 devant le tribunal de Rennes. Toutes et tous sont venus rendre hommage à Liana, dénoncer les défaillances d'un système judiciaire sous pression, montrer que les enfants ne sont pas des variables d'ajustement. Pour ces 30 minutes de rassemblement, Élise et Aurélien sont venus avec leurs 3 enfants.
Donc il y a Octave qui va avoir 7 ans, Charlotte qui a 4 ans, et il y a Soline qui a 3 mois.
3 mois.
Voilà. Ouais, bah, c'est leur droit. Donc ils ont toute leur place ici. Et puis il faut les écouter surtout. On ne les écoute pas beaucoup. On a envie qu'ils soient conscients qu'il y a certaines choses qui existent et qu'ils ont le droit de dire que ce n'est pas normal et qu'ils ont le droit d'être respectés.
Les associations prennent tour à tour la parole. On sent l'émotion dans la voix de la représentante du collectif Nous Toutes Rennes.
Notre société est remplie d'hommes bien sous tout rapport qui commettent des violences sur les enfants, sur les femmes et les minorités de genre. Combien faudrait-il de prisons si nous voulons tous les punir? Pensons-nous que les mettre tous en prison changera la base de ce qui conduit à commettre ces violences?
À l'abri, sous le porche de la cité judiciaire, deux avocates du barreau attendent leur audience malgré l'heure tardive.
C'est bien que les gens se mobilisent aussi sur ces questions-là et que ce ne soit pas que les acteurs judiciaires, que ce soit toute la population qui se sente concernée.
De toute façon, on en revient toujours au même. Il n'y a pas assez de moyens, dans tous les domaines de la justice, hein, que ce soit les greffiers, les magistrats, les policiers. Enfin, voilà, on sait bien que... Maintenant, il a demandé à ce que toutes les plaintes soient reprises, mais s'il n'y a pas de personnel pour reprendre, ça va pas marcher. Donc c'est bien, mais il faut que ça soit suivi par des moyens et du personnel, quoi.
Dans le département d'Ille-et-Vilaine, ils sont près de 1700 à s'être mobilisés.
Un reportage réalisé avec Léonore.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Le cinéma est un voyage. La semaine dernière, déjà, Polycarpe Thiappé, le directeur du Festival International Numérique de Cotonou, donnait le ton au micro de Syllabe. Du 4 au 7 juin, la 9e édition de cet événement s'est tenue dans différents lieux rennais, avec pas moins d'une trentaine de films projetés. Au programme, un voyage vers le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Espagne et le Maroc, à travers des documentaires, fictions, courts et longs métrages. Je vous propose un retour sur le festival. Aux Ateliers du Vent, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour le Festival International Numérique de Cotonou. Coussins par terre et projecteurs, l'idée c'est de faire comme à la maison, pour les proches des cinéastes, comme pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore.
Bonsoir à toutes. Merci d'être là ce soir.
Vêtue d'une tenue traditionnelle béninoise, Maëlle co-anime la cérémonie d'ouverture.
Pour moi, c'est important parce qu'on est tous héritiers d'une certaine histoire et que les échanges entre la Bretagne et le Bénin remontent à plusieurs siècles et notamment à travers la traite dite négrière. Et qu'aujourd'hui, il appartient à nous d'écrire la suite de cette histoire et de montrer qu'on peut tous vivre ensemble et qu'on n'a pas à avoir honte de cet héritage.
Des mots qui résonnent pour Kalia Souleymane Akron, sa binôme de la soirée. Elle présente elle aussi son documentaire « Iba et l'esprit joueur ».
Polycarpe, il m'a énormément aidée sur ma propre projection. Du coup, j'avais aussi envie de lui rendre l'appareil. Et puis, en fait, à la base, je pensais même pas qu'on filme allait être sélectionné. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais je trouve ça hyper important de pouvoir faire vivre ce genre d'événement parce que c'est aussi ce qui fait découvrir le Bénin. Enfin, en tant aussi que réalisatrice, je me dis c'est aussi ce que je cherche à faire avec mon documentaire. Ça va de soi, on va dire.
Colline Wyss, co-réalisatrice et membre de l'association Un Monde qui s'accorde, présente elle aussi son documentaire Au rythme de Dakar.
Le but, c'est de te faire découvrir un petit peu le pays et à travers sa musique, avec comme fil conducteur, qu'est-ce que la musique ? Tout bêtement. Mais en fait, en puisant entre musique traditionnelle, urbaine, contemporaine, on se rend compte que tout est un peu lié et notre but dans ces deux dans Au rythme de Dakar, c'est aussi de faire découvrir la musique et les arts à travers ce documentaire.
Pour Abdoulaye, artiste sénégalais, c'est une fierté.
Aujourd'hui, je suis très très ému de regarder ce documentaire ici. Mmh. Et vraiment, c'était vraiment vraiment de plaisir. Bravo à Colline et bravo à Amandine aussi et à toute l'équipe de 244 Pro et à toute l'association Au Monde qui s'accorde. Vraiment, merci beaucoup. C'était très cool.
Le pari est donc réussi pour ce festival qui a su trouver son public.
6 heures avant minuit.
Tenue festive, cagoule prune avec des pompons multicolores et tambours, le collectif Bouge ta préf était présent cet après-midi devant la préfecture rennaise. Dans toute la France, des Jeux Olympiques, des démarches en préfecture étaient organisées pour dénoncer les lenteurs administratives. À Rennes, plus d'une soixantaine de personnes étaient présentes. Léonore a suivi le groupe pour échanger avec une manifestante et une organisatrice, Armelle Bounia du MRAP 35, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
Pour moi, j'ai fait demande pour titre de voyage. Préfecture dit, eux, ils ne me connaissent pas. Parce que, et en plus, c'est eux qui m'ont donné titre de séjour. C'est eux qui m'ont donné le passeport aussi. Mais là, il n'y a pas réponse pour moi. Ça fait déjà 3 mois.
Prochaine candidate, quel obstacle vous allez rencontrer sur votre démarche à la préfecture? La session est expirée.
Le collectif Bouge ta préf, c'est un collectif de Rennes qui réunit quasiment toutes les associations qui font de l'aide à l'accès aux droits à Rennes. Et les mêmes collectifs existent dans plusieurs villes qui se sont regroupés pour faire une action tout le monde en même temps aujourd'hui. On a demandé un rendez-vous à la préfecture depuis plusieurs semaines. Elle ne nous répond pas. Donc on essaye de trouver une formule pour atteindre la préfecture et pour se faire entendre, quoi. On est là, nous, ici à Rennes, mais ça se passe la même chose dans beaucoup de préfectures de France, parce que depuis la dématérialisation des démarches, les gens ont énormément de mal à faire leurs démarches, au risque, pour ceux qui ont déjà un titre de séjour, au risque de ne pas le voir renouvelé dans les temps, et donc de se retrouver à nouveau sans papier, de perdre leur travail, leur logement.
Pas d'ordinateur, les interlocuteurs, pas
d'ordinateur. Les sites internet sur lesquels ils doivent faire leurs démarches sont extrêmement complexes, pas du tout adaptés à leur public. C'est souvent en panne, il y a des exigences de documents énormes, enfin. Donc les gens n'y arrivent pas tout seuls, sont obligés de chercher de l'aide. Et à chaque fois, c'est un énorme stress pour eux, parce que si les choses ne sont pas faites dans les temps, ils vont perdre tous leurs acquis.
C'était un reportage de Léonore.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes immergés en pleine Seconde Guerre mondiale, au début du mois, ils et elles ont participé à Résistance, un jeu théâtralisé autour de l'engagement et des parcours de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale dans le centre-ville de Rennes. Solène s'est rendue sur place.
Les amis, vous l'aurez sûrement compris, la situation devient urgente. L'Américain est blessé. S'il n'est pas mort, nous devons lui apporter des soins au plus vite.
Lancé à la recherche d'un parachutiste américain blessé dans les rues de Rennes, 300 jeunes ont pu s'immerger dans la Seconde Guerre mondiale. Sur leur route, ils ont fait la connaissance de plusieurs figures de la résistance rennaise qui ont vraiment existé.
Alors moi je me présente, moi c'est Mèche Courte, mais maintenant que vous me connaissez, vous pouvez m'appeler Dédé. André.
Je suis Madame Jean. Je crois que vous avez quelque chose pour moi.
Bien. Alors je me présente, je suis Le Vigan, responsable du comité de libération de Rennes et écrivain à mes heures perdues.
Et les élèves ont pu prendre part à la résistance à leur tour à travers le renseignement, le sabotage, la création de faux papiers ou encore le décodage de messages radio.
Les Français parlent tout français. Ici Londres.
À Rennes, on expérimente beaucoup les nouvelles pratiques mémorielles parce qu'on se rend compte que les jeunes ils sont très éloignés des conflits contemporains, ils ne les comprennent pas forcément, ils s'éloignent aussi des cérémonies. Donc à travers le théâtre, on a l'impression en tout cas qu'ils comprennent un petit peu mieux le sens du travail de mémoire.
Nathalie Bidan, référente régionale mémoire de l'ONAC-VG et responsable nationale mémoire et spectacle vivant, a participé à la conception de ce jeu.
J'ai l'impression que ça a été très bien accueilli par les jeunes. On a des publics différents. Ce programme il est destiné à des classes de la 4e jusqu'à la terminale.
Une immersion que les apprentis résistants et résistantes ont appréciée, comme Sacha Boudot, élève de 4e au collège Échange à Rennes.
Aujourd'hui, cette activité m'a permis d'apprendre la Seconde Guerre mondiale tout en étant un résistant. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir aimé parce que c'était instructif et amusant aussi.
Les tueurs à la balle, tu es vite.
Le projet est porté par l'ONACVG, l'Office national des combattants et victimes de guerre, la ville de Rennes, le ministère des armées et le cercle des amis de la mémoire partagée. 6 heures avant minuit.
Selon l'ANSES, 23 à 27% des enfants en France dépassent la dose journalière tolérable de cadmium, soit 0,35 microgrammes par kilogramme selon son poids. L'organisme estime que l'exposition à ce métal lourd est cancérigène. Avec AESA, on a demandé à Khalil Hanna, enseignant-chercheur en chimie de l'environnement à l'Université de Rennes, pourquoi les plus jeunes sont autant exposés et quelles sont les conséquences sur leur santé.
On retrouve principalement le cadmium dans les plantes cultivées comme le riz, le blé. Par exemple, les céréales du petit déjeuner, les barres céréalières, les biscuits salés ou sucrés, pommes de terre, des légumes, les pâtes, le pain, la farine, les croissants, les pains au chocolat. Donc comme ça contamine principalement la base de tout ce qu'on mange principalement au petit déjeuner, forcément, ils sont surexposés. Que la population générale. Il n'y a pas de débat sur la question. Il est toxique, reprotoxique, c'est-à-dire toxique pour la reproduction. Donc il s'accumule dans l'organisme, principalement dans les reins et les os, et s'élimine très lentement. Les enfants qui consomment aujourd'hui, ils peuvent développer des maladies à 30 ans, 40 ans. Il peut provoquer, par exemple, des effets sanitaires de type atteinte rénale chronique, fragilisation osseuse. Et puis aussi, il peut provoquer, en tout cas, il peut augmenter le risque de certains cancers. Ça, c'est pour la population générale. En fait, on parle des enfants qui sont plus exposés, parce que en fait, le corps d'un enfant en pleine croissance a justement un besoin très important en minéraux. Donc, le corps, il va assimiler plein de choses. Il va assimiler le fer, le zinc, ce qui est bien pour la santé. Mais en même temps, il va assimiler aussi le cadmium. Le cadmium n'est pas du tout, en fait, un élément essentiel pour l'organisme comme le fer et le zinc. Le cadmium, c'est toxique, reprotoxique aussi. Donc, il peut être assimilé rapidement par la corps d'un enfant et provoquer aussi des effets toxiques, c'est-à-dire des effets sanitaires du type cancer ou d'insuffisance rénale. Un élément important, c'est que pour les personnes carencées en fer, le cadmium peut jouer ce qu'on appelle l'as de déguisement et peut prendre la place du fer. Donc pour les personnes vulnérables, les enfants, les femmes enceintes, ils sont plus exposés parce que le cadmium peut prendre la place du fer et peut être beaucoup plus assimilé que pour, par exemple, la population en général.
Récemment, le sujet s'est invité au centre des débats à l'Assemblée nationale. Un texte porté par les députés du groupe écologiste Benoît Biteau et Clémentine Autain a été adopté à 144 voix contre 22 au début du mois. Il prévoit une réduction dans les engrais phosphatés de ce métal lourd toxique.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Un bac en langue régionale, c'est ce qu'avait annoncé Édouard Geffray, toujours lui, ministre de l'Éducation, en mai dernier. Cette option serait offerte aux élèves à partir de la session 2028. Mais dans les faits, cette mesure ne concernerait que peu de lycées. La majorité ne dispose pas de spécialité en langue régionale, faute de profs. C'est le cas du breton. À AESA, on a parlé avec Maïwenn Kervala de l'association Yaouankiz.
Je pense que c'est important. Le breton est une belle langue et il fait partie de la culture de Bretagne. Il ne faut pas que ça se perde. Je suis en seconde dans la filière bilingue français-breton, donc qui est enseignée au lycée Jean Massé. Et depuis quelques mois, je fais partie de l'association Yaouankiz Dioyez, qui est donc une association de jeunes élèves qui sont dans la filière bilingue breton-français. Et donc le but de notre association, c'est de sensibiliser les gens au breton et de mener à bien des projets et des actions pour se faire connaître et pour améliorer l'enseignement du breton dans la filière publique. C'est une culture et une langue tellement riche et tellement belle, il faut la préserver. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui parle le breton. Et donc le but de notre association, c'est de refaire augmenter en fait ce nombre. Dans notre association, on est content d'être reconnu comme ça par l'État. Mais malheureusement, ici en Bretagne, il n'y a presque aucune spécialité en breton qui est enseignée en filière publique. Donc cette réforme concerne surtout la filière privée, donc les lycée en immersion Dimon. Donc on espère qu'à l'avenir, cette réforme va permettre de faire ouvrir des spécialités enseignants bretons dans la filière publique.
Pour les associations de défense du breton, il reste encore beaucoup de chemin pour s'imposer dans les épreuves du baccalauréat. 6 heures avant minuit.
Comptoir du Doc, l'association rennaise de films documentaires, organise sa fête de clôture de saison à Grabuge, dans le quartier de la Courrouze, ce vendredi. Lorraine, responsable de la communication à Comptoir du Doc, nous en parle.
À l'occasion de notre fin de saison, on propose un événement à Grabuge, donc aux halles en commun dans le quartier de la Courrouze, avec la plateforme Tank, qui est donc une plateforme de cinéma documentaire qui fête ses 10 ans. Et donc, c'est à l'occasion de cet anniversaire-là, et puis nous, de notre fin de saison, qu'on s'associe pour proposer un événement autour de la thématique des joies militantes. Là, c'est plutôt aller interroger le militantisme, mais du côté de la fête, du côté du collectif et du côté du pouvoir d'action de chacun. Pour le programme, donc, on se donne rendez-vous à partir de 18h. On propose avec un intervenant de réaliser des ciné-tracts à partir de rushs de pellicules. Et c'était l'idée de faire des microfilms de 1 à 3 minutes avec des messages très revendicants ou en tout cas très politiques. Et puis ensuite, on aura une table ronde autour de la question de la joie militante avec 2 invités. Juliette Rousseau, qui est une autrice bretonne, qui est très très militante elle-même et qui s'intéresse beaucoup plutôt aux questions de féminisme et de ruralité. Et en face d'elle, on aura Laurie Lassalle, qui est une réalisatrice qui elle-même milite beaucoup. Et là, elle va nous présenter son film Forêt Rouge, qui a été tourné il y a quelques années sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et on aura également la présence de le groupe Louvre, qui est une chorale féministe qui circule pas mal sur Rennes et qui nous ont concocté un petit répertoire de musique militante. Cet événement est gratuit, c'est en accès libre toute la soirée. Vous pouvez même venir à partir de 22h juste pour le film, qui sera projeté lui en plein air, vraiment devant les hangars de Grabuge.
C'était Lorraine de Comptoir du Doc au micro d'Anna.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Alcool et comportement à risque, ça c'est punk. Oui, ma transition est border, mais je m'en fiche parce que moi aussi je suis punk. Et si toi aussi tu l'es, rendez-vous ce week-end au Jardin Moderne pour le 3.0 Fest. Gousse de FIPZ, F-I-P-Z, je sais pas comment on dit. Bref, on s'en fout, nous parle de la prog.
Donc c'est la 3e édition du Zéro Fest, donc il y a eu le Zéro Fest, le 2.0 Fest et là c'est le 3.0 Fest. La programmation est faite donc par le groupe Poésie Zéro dans lequel je suis. Poésie Zéro, c'est un groupe originaire à la base de Nantes, moitié à Rennes, moitié à Nantes. On existe depuis 2010, on fait des concerts toute l'année un peu partout en France. C'est que des amis à nous qui jouons. Et cette année on a les Vulves Assassines de région parisienne, King Kong Meuf de Montreuil, les Chatons Grillés de Rennes, Poésie Zéro donc, et les Petites Roulottes de Dijon qui est un collectif qui font une comédie musicale qui s'appelle Patraque Fury et ses Furieuses. Sur scène, on avait fait ça l'année dernière, il y a autant de filles que de garçons. On fait un prix d'entrée qui est pas trop cher parce que c'est pendant le Hellfest et c'est des musiques qui sont quand même assez proches de l'esthétique Hellfest mais un peu plus ouvertes. Et après, bah, c'est des valeurs anti-racistes, anti-fascistes, anti-sexistes. Voilà, c'est une bonne ambiance, endroit safe, c'est ouvert à tous sans souci.
Des propos recueillis par Léonore Royer et le 3.0 Fest, c'est demain, dès 19h, au Jardin Moderne, à Rennes.
6 heures avant minuit.
La directrice de la Criée, Sophie Kaplan, qui nous en disait un petit peu plus au micro de Anna.
Pour cette exposition, on a voulu transformer le lieu à la fois en salon d'amis, et en salle des fêtes. Donc vous avez un salon de lecture où en fait dans lequel on propose les éditions de La Criée, donc qu'on publie depuis 40 ans, et puis les éditions des artistes que vous voyez sur les murs. L'idée aussi c'est de partager la fabrique de l'art et notre quotidien qui est d'être plus près de l'art et des artistes et cette magie de composer soi-même les expositions. Et donc les murs sont mobiles. Vous accrochez la poignée par le mur directement et vous le placez où vous voulez. Donc il y a 12 panneaux qui sont des commandes. Donc ce sont que des œuvres conçues ou reconçues spécialement pour l'exposition. Et là, vous pouvez aussi jouer. Donc quand vous avez composé votre exposition en grandeur nature, vous pouvez aussi la refaire en miniature à partir de ce jeu qui s'appelle Rejouer la criée. Tout est à roulette dans les mobiliers là, du salon de lecture. Et le jeu, donc on peut tout enlever et puis accueillir des propositions. Par exemple, là, on va faire un partenariat autour de l'artiste Johanna Rocard avec les Tombées de la nuit, les 3 et 4 juillet prochains. Ou encore avec le CCRNB dans le cadre du festival Underground en octobre. Bienvenue, c'était aussi inviter nos partenaires anciens, enfin fidèles ou nouveaux, et divers et variés tout au long de l'exposition. Donc il y aura toute une programmation événementielle. Il y aura aussi des ateliers qui pourront se tenir dans l'espace avec là, ben voilà, ça c'est vraiment l'espace atelier qui va s'agrandir des productions des participants, participantes au fur et à mesure de l'expo. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tout le mobilier était l'œuvre du designer Guénolé Jézéquel et l'atelier Jazz. L'un des buts de cette exposition par rapport à cette époque multicrise qu'on traverse, qui touche la création, mais qui nous touche tous en tant que citoyens, citoyennes, à différents endroits, c'est aussi d'offrir un espace où toutes et toutes vous êtes les bienvenues, en jouant, en s'attablant, en se posant dans des canapés, et puis prendre le temps de partager ce lieu.
Merci Anna. L'exposition Bienvenue à la criée est à découvrir gratuitement jusqu'en décembre à Rennes. N'hésitez pas à venir jouer, à investir le lieu. Toute la programmation est sur le site de la criée.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
La saison Open Garden du Jardin Moderne se poursuit. Ce week-end, rendez-vous pour le Super Bowl of Hardcore. On en parle avec Michael de l'association Face to Face Pied. Des propos recueillis au micro de Léonore Royer. Le Super Bowl of Hardcore, c'est le vendredi 26 et le samedi 27 juin au Jardin Moderne de Rennes dès 17h.
Face to Face, c'est une asso qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, qui organise des concerts de punk, hardcore dans la ville de Rennes et aux alentours. Une bande de copains en fait, passionnés de musique et qui se bougent un peu les fesses, on va dire, pour pouvoir organiser ce genre d'événement et proposer des groupes qui n'ont pas forcément l'habitude de tourner dans le coin, quoi. En fait, le Super Bowl of Hardcore, c'est un festival qui a été créé déjà à la base aux États-Unis. Et c'était repris par David Mancia et toute l'équipe de Stomcore. C'était dans les années 90 et nous, ça fait depuis 11 ans qu'on a repris ce festival avec l'association Face to Face justement, et ça va être la 9e édition Jardin Moderne. Alors, cette année, on a Converge, on a Ewire, on a Madball, Casualties, Chisel et plein d'autres. Sur Instagram, Facebook et tout ça, vous pouvez retrouver le lien de la billetterie en fait dans les commentaires. Ça s'adresse à tout le monde, c'est vrai qu'on a un public assez familial aussi, ça va de, on va dire 12 ans jusqu'à on va dire 80 ans.
Si la la
la radio sauvage.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe. La radio sauvage.